Imagination, une série d'entretiens proposés par Alain Prochian, neurobiologiste, professeur au Collège de France.
Nous avons aujourd'hui cet entretien dans la série Imagination, série qui est consacrée à se poser des questions sur les rapports entre art et science. Non pas sur le thème classique de l'esthétique, mais de la science éventuellement, ou du côté scientifique dans l'art, qui existe aussi. Hein. Nous aurons le directeur de l'IRCAM bientôt. Mais qu'est-ce qui peut faire des liens entre l'art et la science, au-delà de ces questions, et en particulier à travers l'imagination, imagination qui est le titre de la série d'entretiens que nous menons pendant l'été. Nous recevons Edith Heard. Edith Heard est professeure du Collège de France. Elle occupe la chaire d'épigénétique et mémoire cellulaire. Elle a fait des travaux essentiels en biologie sur ce qu'on appelle, et elle nous expliquera probablement, l'inactivation du chromosome X. Vous voyez que la science peut ne pas manquer de poésie, en tout cas dans ses intitulés. Edith est née en Angleterre, mais d'ascendant grec et anglais. Et puis, elle est installée en France, donc elle est essentiellement une chercheuse européenne et revendiquée comme telle par elle-même. Vous nous aviez envoyé une petite citation d'Albert Einstein. Il y a beaucoup de citations d'Albert Einstein. Certaines sont fausses et inventées, mais celle-là, j'espère, est juste. En tout cas, elle est utile, elle va nous servir. L'imagination est plus importante que la connaissance. Que entendez-vous par là?
Bon, je pense qu'en tant que scientifique, la connaissance est tellement à la base de tout ce qu'on fait. On est obligé d'avoir les faits, les données, de bien vérifier que nous avons toutes les pièces pour comprendre le morceau entier. Et en fait, on est presque contraint, je dirais, par les connaissances souvent. Et pour faire les pas en avant, que ça soit en biologie ou en physique ou en chimie, il faut de l'imagination. Donc en fait, je trouve, j'imagine que toi aussi, tu as cette expérience que parfois pour avancer, il faut vraiment se libérer des contraintes de ses connaissances et laisser l'imagination libre. Et j'avoue que c'est un exercice presque en soi pour moi de me dire, ben voilà, la lourdeur presque, le poids de tout ce qu'on connaît sur un sujet ou sur une thématique et de se libérer un peu de ça pour se dire, mais on n'a pas tout compris, donc comment il faut avancer? Donc je pense, pour moi en tout cas, c'était ça l'interprétation de cette citation de Einstein, ou, enfin on espère de Einstein.
Mais au risque de heurter ta modestie, il n'y a rien de plus utile dans ce genre de discussion que les travaux pratiques. Donc, est-ce que tu pourrais nous donner, soit dans ta vie scientifique personnelle, soit dans des cas que tu as pu fréquenter, mais préférentiellement dans ta vie personnelle, un exemple d'un moment où cette capacité de se libérer au fond des livres de classe, hein, de la connaissance admise, acquise, qui est quand même le fond de sauce permanente de ce qu'on lit dans la littérature scientifique. C'est très rare qu'on voit des choses nouvelles. Un moment où cette capacité à te libérer t'a permis de faire une découverte importante. Bon, je sais laquelle, mais on en parlera plus tard. Voilà.
Oui, enfin, donc déjà peut-être pour situer ma propre voie dans tout ça, j'ai commencé sans être biologiste, donc j'ai appris, je dirais, la liberté de l'imagination qui vient avec la biologie, parce que j'ai commencé avec des études de physique et de mathématiques et qui étaient extrêmement utiles, mais j'ai réalisé en arrivant à la fac, à l'université, que c'était difficile de voir comment comment moi je pouvais contribuer, avancer. C'était, j'ose dire, un peu ennuyeux. Tout a été un peu fait, le tour a été fait un peu en physique et en chimie. En tout cas, à l'époque, c'était l'impression qu'on avait. Et donc, écouter les biologistes parler de leurs travaux et voir à quel point ils pouvaient utiliser leur imagination, parce qu'il y a tellement d'inconnus encore, pour moi, était une vraie expérience, une découverte. Donc, sur la base de ça, j'ai décidé de poursuivre des études de biologie. Et donc, j'ai fait une thèse. J'étais très lent. Je suis toujours un peu lente, moi, au démarrage.
Oui, oui.
Et donc, après une thèse très douloureuse, mais qui m'a quand même plu, clairement, parce que j'ai continué, je suis arrivée à l'Institut Pasteur pour faire mon stage postdoctoral.
C'était une thèse sur quoi ?
C'était une thèse sur l'amplification génique. Donc, comprendre comment, parfois, les gènes se mettent à se multiplier de manière incontrôlée dans des tumeurs. C'est un processus qui arrive rarement, normalement, mais dans une cellule cancéreuse, on peut acquérir un avantage sélectif si on multiplie le nombre de copies des gènes.
Comme c'est la cellule qui a l'avantage sélectif.
Ça, la cellule, oui.
Oui.
Oui, c'est
donc,
ça.
Elle tue le porteur.
Non, elle ne tue pas. Mais, ah oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Oui. Mais elle dépasse ses voisines. Donc, après cette thèse, j'ai réalisé que comprendre la génétique d'une tumeur était difficile. Donc, je me suis focalisée sur des processus plus normaux, comme le développement, l'embryogenèse. Et ce processus qui est l'inactivation d'un des deux chromosomiques chez les femmes. Et en arrivant à l'Institut Pasteur, dans le laboratoire de Philippe Avner, mon projet était de comprendre quel était le morceau d'ADN, la partie d'un chromosomique qui pouvait déclencher ce processus d'inactivation qui met en veille un chromosome entier au cours du développement d'un embryon femelle.
Parce que les femelles ont deux chromosomiques, mais il n'y en a qu'un qui marche.
Voilà, exactement. Voilà. Et les hommes n'ont qu'un seul chromosome X, donc si
et
ça marche pas,
marche.
C'est raté. Voilà. Donc voilà, c'était un projet, on va dire, un peu ambitieux, mais à l'époque, ça me semblait quelque chose qui stimulait justement mon imagination. Donc j'ai commencé et j'ai réalisé qu'effectivement, c'était très ambitieux. Et j'ai passé, je dirais, 10 ans de souffrance. J'ai traversé un peu le désert. J'étais un peu seule parce que je faisais des tests avec des morceaux d'ADN de plus en plus grands que je mettais dans des souris, dans des cellules pour voir si ça marchait. Ça marchait pas, ça marchait pas. Et les gens me posaient la question, mais pourquoi tu continues? Ça sert à quoi ce que tu fais? Mais je voulais quand même trouver cette région qui était pour moi le Graal pour comprendre comment déclencher ce processus qui était quand même un processus important pour les femmes, pour les femelles. Et c'était à la suite.
Pour l'espèce.
Pour l'espèce, oui. Pour les mammifères. Et donc, c'était après ces 10 ans de souffrance, mais de travail intense à la paillasse, avec des collaborateurs, que j'ai réalisé qu'il manquait une dimension. Et c'est là, où j'avais l'impression d'avoir acquis tellement d'informations sur mon système. Je le comprenais. Je comprenais presque tout ce qu'il y avait à comprendre, mais il manquait une dimension. Et c'est là où je laissais mon imagination arriver. Et je me souviens très bien du jour où presque je me suis réveillée en me disant « mais ça suffit ». J'ai travaillé comme un âne pendant des années et maintenant il faut vraiment que j'arrive à trouver comment ça marche. Et pour moi c'était l'ouverture d'une nouvelle époque qui était en fait au moment où je suis partie aux États-Unis pour un an aussi, mais c'était avant que je commençais à réfléchir à ce problème. Et c'était grâce à ce moment de libération où effectivement je lançais des nouvelles approches, des techniques que j'avais pas utilisées encore. Et c'est là que j'ai découvert qu'effectivement il manquait une dimension. La manière que les chromosomes se plient en 3 dimensions dans l'espace était quelque chose qu'on ne connaissait pas. Et donc je suis tombée sur une découverte totalement inattendue grâce à ce moment de libération de mon imagination.
C'est vrai que les généticiens ont pendant longtemps pensé en une seule dimension.
Absolument. Donc, il y en a certains qui continuent.
Il y en a qui continuent. alors que l'organisme était un organisme en 4 dimensions. Donc, ouais. Espace et temps, et qu'il y a forcément quatre dimensions dans les chromosomes, enfin dans la formation génétique.
C'est ça.
Et ça, c'est presque philosophique, en fait. C'est...
Oui, et c'est étonnant, en fait, que, en fait, il y avait deux mondes. Il y avait le monde qui pensait en quatre dimensions, donc les embryologistes, et puis il y avait le monde qui était plutôt mono ou didimensionnel, les généticiens. Et c'est là où. Des grands savants bien avant avaient déjà réfléchi à ce mot épigénétique, la fusion entre épigénèse, développement et génétique. Et donc l'épigénétique, c'est le cœur de mon sujet. Et donc cette idée qu'il faut organiser les choses dans l'espace et dans le temps pour progressivement trouver une complexité à partir d'une simplicité, c'était une vérité qui était déjà là et que moi j'ai compris assez tard, finalement. Et maintenant, c'est encore de tout ce qu'on fait au laboratoire, en tout cas.
Mais est-ce que la mathématicienne qui sommeille en toi, malgré tout, n'aurait pas pu, dès le départ, se dire qu'on ne peut pas projeter un espace à une dimension dans un espace à quatre dimensions? Est-ce que...
Oui, bien sûr. Mais quand on est humble biologiste, on fait avec ce qu'on a, avec les moyens du bord. Donc je savais bien que j'étais très très loin du compte. Mais maintenant, heureusement, on commence à voir le côté beaucoup plus quantitatif, presque mathématique, même en biologie. Et ça, c'est super à voir.
Et alors cette prise de risque, d'une certaine façon, ça t'est venu comme ça dans une nuit, tu dis, et un matin tu t'es réveillé en disant je vais pas y arriver en continuant comme ça ou,
Oui, je fonctionne souvent comme ça. Je souffre pendant très longtemps, mais pas, enfin, c'est pas une souffrance douloureuse. On est quand même très chanceux d'être scientifique. C'est une souffrance très agréable, mais à un moment, on bloque, c'est un peu, voilà, au moment où les dogmes ne tiennent plus, et on se dit, ben là, il faut casser. Et pour casser, il faut partir ailleurs dans le cerveau. Et j'avais vraiment l'impression d'utiliser une autre partie de mon cerveau pour arriver à imaginer le type d'expérience, la manière d'aborder le sujet différemment. Et c'était très agréable, très excitant, mais en même temps, ça faisait un peu peur parce que je me lançais dans des domaines où j'avais moins de connaissances. Et bien, il y avait moins de connaissances, tout court. Ouais.
Mais ça, donc c'est un geste d'individu, un petit peu iconoclaste, comme il y en a souvent quand on invente en science, mais pas uniquement en science. J'imagine que dans les autres disciplines aussi, enfin, en tout cas en arts, très certainement. On a discuté un petit peu avec Pierre-Michel Minguer, qui est un de nos collègues au Collège de France, et la question qui a été discuté avec lui, c'est l'articulation entre la nécessaire activité un peu disruptive des gens qui lâchent la rampe, qui vont au-delà de ce qui est logique, de ce qui est admis, qui sont obligés d'inventer avec des mots, d'une certaine façon. Comment est-ce qu'on invente ? On y reviendra à propos de la langue en particulier. Mais... Et puis, la contrainte sociale, c'est-à-dire le contrôle de la valeur de ce qui est produit. Et en art, le contrôle de la valeur, c'est une chose compliquée. Mais en science, d'une certaine façon, il y a une épreuve, à un moment, qui est une épreuve de vérité. C'est-à-dire que même si on lâche la rampe, et si on prend un risque important, quand tu es à la pointe de la pointe, il y a forcément un risque à prendre. Il y a un moment où il y a la validation. Comment c'est reçu, d'abord? Est-ce que c'est possible socialement? Et ensuite, comment est-ce que ça se valide? Donc, il y a dû vivre cette expérience, j'imagine.
Oui, en fait, comme je disais, j'ai passé 10 ans un peu de détresse où personne voyait l'intérêt de ce que je faisais. Ensuite, j'ai passé 10 ans où j'avais mis en place des nouvelles approches et c'est là où on tombait sur ces nouveautés. Et effectivement, il faut avoir une certaine force et une obstination pour s'accrocher malgré tout, parce que au début, je me souviens très bien, les gens disent c'est un artefact, ce que vous avez découvert ne tient pas la route, vous avez pas bien fait les expériences, personne d'autre a vu ça, donc ça veut dire que c'est faux. Et là, il faut vraiment s'accrocher. Je pense que toi, tu es encore mieux placé que moi pour savoir ce que ça veut dire de pouvoir se batailler pour convaincre les communautés de la validité de ce qu'on a trouvé. Trouver les mots, parce qu'effectivement, il n'y a pas souvent des mots pour décrire des nouvelles découvertes. Il faut inventer des manières de raconter l'histoire, de présenter ça pour que les gens comprennent les implications. Et ça prend un certain temps. Et dans mon cas, pour la découverte sur l'organisation des chromosomes en domaine, la validation par d'autres équipes était très rapide. Donc en un an, les gens commençaient à dire « Ah ben oui, c'est comme ça ». Et puis après, c'est très intéressant parce que la prochaine étape, c'était « Ah ben oui, c'est très intéressant, mais c'était pas elle qui a trouvé, c'était nous ». Et donc là, pas tellement moi, mais mon équipe, les chercheurs qui ont fait les expériences malgré tout et en se battant, en fait, c'est un moment où on se sent un peu sur la défensive et puis trahi quelque part. Donc après, il y a une phase où on essaie de rectifier ça. Et il faut pas perdre la vue de l'importance qui est de faire, comment dire ça, faire vibrer la communauté ensemble sur cette nouvelle compréhension de certaines choses pour ensuite avancer. Voilà.
Oui, on va reprendre dans un instant parce que, au fond, tu dis il faut de l'obstination, il faut tenir, mais la question qui se pose, c'est est-ce que tu aurais pu faire autrement? C'est-à-dire, tu n'aurais jamais lâché. C'est là que le sujet de la science est quand même très important. C'est-à-dire que c'est pas une. Contrairement à certains philosophes, c'est pas une activité. Je pense pas que la science est une activité. Paranoïaque, c'est pas ouvrir le grand livre de la nature et le lire. Ça implique quand même une personne. À un moment donné, ça implique une personne. Et c'est là que, de nouveau, le lien avec l'art est important. Même si cette personne, ça l'emmène à l'échafaud via l'ascenseur, comme le dirait Miles Davis, que nous allons entendre dans un instant.
Culture, imagination, Alain Prochian.
Donc après cette petite pause dans l'ascenseur, nous allons donc reprendre cet entretien avec Edith Hurd, dont je rappelle qu'elle est généticienne, on dirait aujourd'hui épigénéticienne, et qu'elle est titulaire au Collège de France de la chaire d'épigénétique et mémoire cellulaire. Donc Edith, on avait arrêté un petit peu. Enfin, on s'était interrompu par le jazz sur le thème du sujet, c'est-à-dire évidemment, c'est vrai que tu as fait une découverte qui, en même temps, aujourd'hui, est devenue presque trop reconnue, d'une certaine façon. Mmh. C'est-à-dire que trop reconnue, c'est jamais assez reconnu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, plus personne ne peut penser en dehors des modèles et des propositions que tu as faites il y a maintenant une petite quinzaine d'années.
Oui, enfin, j'étais une des personnes. Il faut déjà que je dise, c'est important que ce type de travail toujours fait en équipe, et j'aurais pas pu faire ça toute seule, c'est clair. Et c'était un étudiant qui travaillait avec moi, en fait, qui a fait les expériences qui ont permis de débloquer la question ou les questions qui nous hantaient depuis des années. Est-ce que j'aurais pu faire autrement? Je pense que, comme tu disais, la science est quand même très spécifique et spéciale. On cherche la vérité, on cherche vraiment à comprendre comment ça marche. C'est presque comme la mécanique, mais on veut savoir comment ça marche de manière moléculaire. Et donc, ce qui est très satisfaisant avec les sciences, c'est quand on tombe sur quelque chose qui est vrai, ensuite, la validation vient toute seule presque. Donc ça, c'est pour moi, finalement, j'aurais pas pu faire autrement parce que j'avais ces questions qui m'obsédaient, et mon équipe avec moi, nous avons travaillé, œuvré pour comprendre comment ça marche, comment on peut déclencher ce processus, comment les chromosomes sont pliés en trois dimensions, comment au cours du développement, tout ça, ça se déroule. Alors moi, pour faire le parallèle avec l'art, quand même, j'ai un artiste que je connais depuis très longtemps, que j'apprécie énormément en Angleterre, qui s'appelle Anthony Wishaw. C'est le père de ma meilleure amie. Et je l'ai vu depuis maintenant 40 ans, comment il travaille. Et en fait, il a des œuvres qu'il a commencées il y a 40 ou 50 ans et qui continuent à travailler dessus. Mais avec l'expérience vécue, avec les nouvelles idées, il ajoute des touches, ou parfois il recommence tout. Il fait un peu, pas tabula rasa, pas complètement, mais il reprend une partie du tableau, il recommence tout, et puis un jour, ça y est, c'est fini. C'est l'objet, c'est l'image qu'il cherchait. Il n'y a que lui qui peut savoir que c'est fini, mais c'est fini. Et je lui ai déjà posé la question plusieurs fois, mais pourquoi à tel moment et pas à tel autre? C'est parce que là, il a compris ce qu'il avait dans sa tête, il a pu le mettre en œuvre. Donc je pense qu'il y a quand même des parallèles entre la démarche scientifique et la démarche artistique, même si au final, pour la démarche scientifique, ce qu'on cherche, c'est des faits de la vérité. Ce n'est pas tout à fait le même que l'art qui est dans la tête d'une personne.
Une vérité quand même évolutive, puisque même les théories scientifiques évoluent. Ah, oui. D'ailleurs, sinon, ce serait des religions. Donc, c'est un petit peu contraire, même à l'idée de ce qu'est la science. Pour revenir à cette notion d'équipe, bien sûr, il faut une équipe. Mais une équipe, c'est une micro-société dans un laboratoire. Mmh. C'est assez compliqué comment ça fonctionne, une équipe, en fait, parce qu'il faut beaucoup... Il y a quand même une personne qui doit emporter la conviction. Il y a tout un travail quand même de lien dans l'équipe qui fait qu'ils ne te lâchent pas. C'est-à-dire que tu as besoin d'eux,
oui.
Mais en même temps, c'est toi qui es occupé par cette idée dans ta tête, qui t'endort avec, qui te lève avec, qui te lave avec, qui mange avec. C'est pas eux. Eux, ouais. Plus, de façon plus... Alors, c'est très important de construire cette espèce de mini-société,
oui.
Qui va travailler sur une idée parce qu'elle est belle. C'est,
oui,
comme ça qu'on dira, elle est belle, l'idée.
Elle est belle ou fascinante. Et moi, j'ai réalisé qu'avec mon équipe, c'est vraiment la communication, oui, qui est importante. Et c'est peut-être là où mes diverses langues rentrent un peu en jeu. Mais j'avais pas une stratégie, moi, pour ma petite société d'équipe. Mais tout simplement, c'était une sincère excitation par rapport à l'idée ou à la théorie ou les hypothèses qu'on testait. Et j'ai réalisé que les gens qui se lançaient avec moi dans cette aventure avaient parfois des meilleures idées et des meilleures approches. Et c'était ce respect mutuel où j'étais, moi, parfois éblouie par les chercheurs de mon équipe, la manière qu'ils abordaient eux-mêmes ce même problème. Qui a fait que ça marchait. Donc c'était, il n'y avait pas, je dirais, une hiérarchie de qui a pensé à quoi à un moment, parce que tout le monde était excité avec chacun leur manière d'aborder les questions. Donc on a eu, c'est rare hein, quand même, on a eu 2-3 moments comme ça dans mon équipe depuis maintenant 17 ou 18 ans, mais c'est des moments vraiment très très importante où on réalise que on est tous sur la même longueur d'onde, mais avec des points d'attaque totalement différents. Mais on est excité par la problématique et pas par voilà les égos des uns et des autres ou les carrières des uns et des autres. Donc c'est vrai, ce travail en équipe est assez magique, je trouve. Et la chimie à trouver est parfois difficile.
Oui. D'ailleurs, c'est assez intéressant de la façon dont tu décris la chose, parce que il y a des moments clés dans la vie d'une équipe où tout d'un coup, enfin, c'est comme ça que j'ai pu le ressentir, mais bon, pas peut-être forcément différent de toi, parce qu'on est différent, mais où tout d'un coup, il y a une vision sur le futur qui s'impose, c'est-à-dire que on est devant l'œuvre déjà accomplie, mais on est très très loin, oui. et on peut même voir les différentes étapes qu'il y aurait à franchir pour arriver là. Et on n'a aucune garantie que c'est vrai, en fait.
C'est ça.
Et ce que tu décris là, c'est tout à fait ce genre de choses qu'on peut ressentir. Si on fait une découverte nouvelle, fut-elle petite ou insignifiante, tout le monde n'est pas Darwin.
Non.
et d'ailleurs, puisque tout le monde n'est pas Darwin, et puisque j'ai affaire à une citoyenne encore britannique, pour quelques mois peut-être.
Quelques mois, oui.
Oui. puisque tu vas devenir française.
Aussi.
Aussi, oui. Bon, donc, puisqu'on parle de ça, Darwin, à mon avis, est un cas assez exceptionnel dans cette affaire, parce que il avait amassé toutes ces informations, il continuait à en amasser par le courrier, par les lettres qu'on lui envoyait, les observations chez les agriculteurs, tout ça. Mais en fait, ça s'est d'une certaine façon synthétisé à partir d'une discussion sur Malthus, un truc comme ça. Hein.
Je pense que l'idée de la sélection naturelle était vraiment à ce moment-là. C'était là où il a lu Malthus. C'était pas une discussion. Je pense que quelqu'un lui avait offert le livre, non?
Je crois que c'est une amie de son frère Erasmus, qui était en fait une membre du Parlement qui travaillait beaucoup sur la question sociale, qui sur la loi sur les pauvres en particulier, qui lui avait donné la lecture Malthus à lire. Mais Malthus, il l'a lu en rentrant du Beagle, mais ça a mis quand même 20 ans avant d'aboutir à une théorie de l'évolution, mais à un mécanisme, à proposer un mécanisme sur l'évolution. Et ce qui est fascinant, et peut-être que tu éprouves ça encore, je serais curieux de savoir, en fait, excuse-moi, c'est la question du doute. Parce que Darwin, jusqu'à la fin, même après avoir publié en 58 l'origine des espèces, avant la descendance de l'homme, avait encore un doute.
Absolument.
Un doute sur la vérité, comme tu dis.
Oui, et je pense que c'est pour ça qu'il ne voulait pas publier. Hein. C'était la compétition qui l'avait forcé à publier, en fait.
Donc cette angoisse, même quand on dit « c'est vrai » et plein d'autres gens disent « c'est vrai », est-ce qu'il y a encore un résidu psychologique, je dirais, de cette espèce de souffrance qui est une espèce
C'est pas une résidu, c'est une manière de vivre tous les jours. Moi, il y a des nuits où je dors pas parce que j'ai peur que, effectivement, la manière qu'on abordait la question n'était pas la bonne et que je suis en train de faire perdre à des gens dans mon équipe du temps ou que les expériences que nous avons faites qui nous ont conduit à conclure d'une certaine manière, finalement, c'était pas la bonne conclusion parce qu'il nous manquait des évidences. Donc, effectivement, je pense que pour moi, tous les chercheurs, tous les bons chercheurs doivent être tiraillés par les doutes tous les jours jusqu'à la fin.
Oui, je trouve que c'est intéressant parce que ce que tu dis, c'est ça va à l'encontre d'une certaine image que les gens se font de la science. C'est-à-dire, c'est ceux qui l'appellent la technoscience en général, qui y comprennent pas grand-chose. C'est un terme absolument horrible. S'imaginer que les scientifiques sont, enfin, je parle des bons scientifiques. Il faut tout en science. C'est une société, c'est-à-dire qu'il faut des gens qui travaillent d'une certaine façon, d'autres, mais ceux qui, justement, sont des sujets de la science à un titre très particulier, c'est-à-dire qu'ils sont capables de prendre un risque.
Absolument.
Un risque même existentiel, je dirais, hein, parce qu'on en a vu se suicider. Hein, à la suite d'une erreur ou à la suite d'un doute, ces gens-là ne sont jamais dans la vérité. Ils n'ont pas ces certitudes qu'on veut absolument leur attribuer comme façon de penser quand on les traite d'experts, par exemple. Je crois que c'est quelque chose qui doit vraiment apparaître plus, parce que c'est aussi ce qui rapproche, évidemment, à travers l'imagination, mais il n'y a pas d'imagination sans risque, rapproche de nos collègues, de nos amis artistes, pour les artistes qui inventent, parce qu'il y a aussi des gens qui font... je dirais, de l'art décoratif, dont on se lasse très vite. comme ça qu'on distingue l'art qui est intéressant de ce qui n'est pas. C'est ce qui ne lasse pas, c'est l'art véritable. Voilà.
Non, et puis en science, je pense qu'il faut le dire. Pour vraiment être un bon scientifique et réussir à avancer loin sur un chemin, il faut suer. Moi, je le dis toujours que quand il y a un étudiant ou un postdoc qui vient dans mon bureau en sueur et en pleurs parce que après des années de travaux, ils ont réalisé que l'hypothèse n'était pas la bonne ou que l'approche utilisée n'était pas la bonne, je dirais que pour moi, c'est un très bon signe. Ça veut dire que c'est la bonne science qui est en train d'être faite. Et ça, effectivement, on le voit pas quand on voit l'article publié ou quand il y a un prix donné à un grand scientifique. On ne réalise pas forcément toute la douleur et le travail qui vient derrière de rigueur, de questionnement, de critique entre scientifiques. Et ça, c'est la base de la bonne science. Oui.
Gainsbourg.
Mieux vaut ne penser à rien que ne pas penser du tout. Rien c'est déjà, rien c'est déjà beaucoup. On se souvient de rien, et puisqu'on oublie tout, rien c'est bien mieux, rien c'est bien mieux que tout. Mieux vaut ne penser à rien que de penser à vous. Ça ne me vaut rien, ça ne me vaut rien du tout. Mais comme si de rien n'était, je pense à tout. Ces petits riens qui me venaient de vous. Si c'était trois fois rien entre nous. Évidemment, ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout. Ces petits riens qui me venaient de vous. Mieux vaut pleurer de rien que de rire de tout. Pleurer pour un rien, c'est déjà beaucoup. Mais vous, vous n'avez rien dans le cœur, et j'avoue, je vous envie, je vous en veux beaucoup. Ce sont ces petits riens qui me venaient de vous. Les voulez-vous, tenez, que voulez-vous? Moi, je ne veux pour rien au monde, plus rien de vous. Pour être à vous, faut être à moitié fou.
France Culture, Imagination, Alain Prochian.
Éditeur est avec nous aujourd'hui pour cet entretien. Je rappelle qu'Edith est généticienne, épigénéticienne, qu'elle a fait de grandes découvertes sur le rôle de la topologie, de la forme en fait des chromosomes dans l'expression des gènes. Hein, je pense qu'on peut dire ça comme ça, ça te va. Je fais toujours attention quand je suis avec Edith parce qu'elle me fait un peu peur. Elle sait tellement de choses que je me sens toujours un tout petit peu en situation d'élève.
Tu te moques de moi.
Voilà. Et donc, on parlait de la question du doute. Mais en même temps, le doute est important, mais le savoir le surmonter est probablement essentiel parce que sinon, on serait complètement paralysé. Et donc ça, c'est le côté du sujet de la science, c'est-à-dire entre soi et soi, il y a quand même quelque chose d'un peu compliqué quand on est un scientifique de ton niveau, bien entendu. Ce qui ne veut pas dire que les autres scientifiques ne soient pas tous les scientifiques n'inventent pas. C'est-à-dire que c'est une société, il y a une société des savants quand même. Et moi, je pense que tous ont un rôle très important à jouer dans l'aventure collective qu'est la science, même si tous ne jouent pas le rôle au même niveau, ni au même moment, ni dans les mêmes circonstances, pour des raisons qui font que justement, il y a des sujets de la science et que les sujets, par définition, sont tous différents les uns des autres. Donc, la question qui peut se poser, c'est la question du contrôle. C'est-à-dire, certes, il faut peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais est-ce qu'aujourd'hui, dans un métier comme le tien, comme le mien aussi, les contraintes qui nous sont imposées permettent, comme ça a pu l'être dans le passé, à moins que nous soyons en train d'enjeveliser le passé, le rendre plus beau, est-ce qu'aujourd'hui, on ne sent pas une contrainte plus forte sociétale du côté de la possibilité de se donner le temps, de perdre son temps pour accoucher de quelque chose qui est vraiment essentiel?
Oui, enfin, je pense que ça, c'est un constat que nous faisons tous, les scientifiques, aujourd'hui, en France, en Europe, dans le monde, presque partout. C'est que les exigences de... comment dire ça, rentabilité, d'application de tout ce qu'on fait sont devenues très importantes et imposent une manière de faire la recherche qui n'est pas vraiment la manière d'un chercheur. Donc moi, pour donner l'exemple pour moi le plus pratique, c'est moi-même. Quand je suis venue en France, j'avais pas du tout l'idée de devenir un chercheur permanent, d'obtenir mon poste au CNRS. Je suis venue en post-doctorant parce que j'étais intéressée par le sujet et je voulais travailler sur ce sujet. Et en fait, j'ai réalisé que il y avait à cette époque, c'était dans les années 90, donc encore il y avait cette possibilité d'avoir un poste permanent qui m'a permis de prendre des risques. J'aurais jamais pu faire ces 10 ans de travaux que j'avais faits à l'époque qui m'ont permis ensuite de faire les découvertes que mon équipe a faites, j'aurais jamais pu le faire au Royaume-Uni, par exemple, où il y avait déjà une pression de publier, être rentable, et puis passer à tout ce qui est un peu plus appliqué, soigner des maladies, etc. Et donc, je réalise que j'ai vraiment eu de la chance de venir en France quand je suis venue, et malgré ce que tu dis que je suis une grande scientifique, moi, pas du tout, je suis juste une porte-parole de toute une série de personnes qui ont travaillé avec moi ou autour de moi, et je réalise que pour arriver à ce point où le succès est reconnu, il faut quand même du temps pour rater, du temps pour explorer différentes voies, du temps pour l'imagination. Et ça, malheureusement, je suis d'accord avec toi, on est en train de le perdre. Je pense que ça va revenir parce que ce n'est pas rentable. Si on ne fait pas la recherche qui permet les découvertes, qui permet la curiosité d'aller voyager un peu, on n'aura pas des grandes découvertes qui font les avancées applicables de l'avenir. Et je pense que peut-être dans 10 ans, 20 ans, les fondateurs, les gens qui donnent les financements de la recherche à l'échelle européenne, etc., vont réaliser ça.
J'aime cet optimisme. Dans 10 ans, en ce qui me concerne, la question sera relativement bien réglée. Mais par exemple, il y a l'exemple que peut-être tu peux nous raconter, l'exemple de Barbara McClintock et de son travail sur les épis de maïs qui n'a jamais été subventionné par un plan Alzheimer, oui, et qui pourtant... peut-être que tu peux nous en dire un mot.
Oui, que ça soit Barbara McClintock ou Marie Curie, hein, c'était de la recherche pour comprendre comment les choses fonctionnaient. Donc ça, c'était une époque où il fallait quand même justifier quelque part la recherche. Par exemple, Barbara McClintock, c'était dans un contexte où on voulait tester les effets de l'irradiation. Et donc, en fait, elle a travaillé sur les premières mutantes de maïs qui étaient issues justement d'une catastrophe, on va dire, génomique. Et c'est ça qui a déclenché les découvertes sur les aberrations chromosomiques qui déclenchaient toute cette partie du génome qui était encore inconnu, c'est les éléments transposables, les éléments mobiles. Mais c'était une femme très forte, donc encore une fois, on revient sur le sujet. Elle a su convaincre les gens autour d'elle de l'importance et l'intelligence de ce qu'elle faisait. Elle était relativement protégée parce qu'elle était au Carnegie Institute et ensuite elle est allée à Cold Spring Harbor, où on l'a laissée tranquille, on va dire, même si, effectivement, elle a décidé de ne même pas publier ses travaux dans des journaux, parce que tellement ils étaient mal compris et critiqués, elle supportait plus. Donc, du coup, en fait, elle publiait dans les annales de son institut sans que ça soit quelque chose qui était revué, etc. Mais il fallait ces décennies, on va dire, de recherche libre pour qu'elle puisse effectivement faire les découvertes qu'elle a faites, qui ont été à la base de son prix Nobel bien longtemps après, en 83, je pense. Hein. C'était oui. Les travaux des années 40-50 et le prix Nobel était en 83.
Oui, heureusement qu'elle a survécu suffisamment longtemps pour le voir.
C'est ça, mais voilà, il faut s'accrocher.
Il faut s'accrocher, y compris physiquement. Donc... C'est intéressant parce qu'en fait, mais même s'il n'y avait pas eu d'application, ça a été simplement un jeu purement gratuit. Finalement.
D'ailleurs, on peut toujours dire qu'il n'y a pas encore l'application. Les gens n'ont toujours pas totalement compris les implications de ce qu'elle avait découvert. Les applications vont venir peut-être dans 50 ans, hein, les vraies
applications. On sent quand même que ça vient un petit peu, non ?
Ça vient,
dans le domaine du cancer.
Dans ton domaine aussi. Je pense que les éléments mobiles, oui, effectivement, on commence à comprendre, mais est-ce qu'on peut appliquer pour soigner une maladie, par exemple, ou pour faire un plan agronome ou agricole ? Je ne pense pas, mais ça va venir.
Les éléments mobiles, pour les auditeurs, c'est tout à fait contraire à l'idée qu'on se fait d'un génome qui serait comme un texte sacré auquel il ne faut surtout pas toucher. C'est l'idée que le génome est très mobile, c'est-à-dire que ça bouge tout le temps, qu'il y a des morceaux d'ADN qui passent d'un endroit à un autre, qui font de l'ARN, qui se remettent en ADN, qui se recollent ailleurs.
Ce qu'on appelait l'ADN poubelle.
Ce qu'on appelait l'ADN poubelle dans le temps. Et sachez que notre génome est constitué de 45% d'ADN poubelle. Donc, pas si poubelle que ça, finalement. Non, mais c'est important parce que c'est vrai que cette idée que le génome est intouchable est quand même un peu étonnant quand on sent à quel point il est lui-même fragile et en réparation permanente. Donc, il y a une chose qui m'a amusé tout à l'heure, c'est quand tu as parlé d'une belle idée. Qu'est-ce que c'est qu'une belle idée, finalement, pour toi ?
Qu'est-ce que c'est une belle idée ?
En science, hein.
Oui, non, mais c'est vrai que quand on pense à une belle idée, on pense aussi presque à quelque chose d'artistique. Comprendre comment un embryon marche, une partie de l'embryogenèse est mise en place, et avoir une illumination par rapport au mécanisme moléculaire qui pourrait déclencher la formation, par exemple, de telle ou telle partie du cerveau ou de tel ou tel lignage. Pour moi, une belle idée, c'est une idée qui a des opportunités de découverte, de recherche, et puis qui permettra de comprendre quelque chose qui reste mystérieux. Et je pense qu'en biologie, il y a énormément de belles idées. Pour moi, il y a des idées qui me séduisent tous les jours, je dirais, et puis que je trouve moche parfois quelques heures plus tard. Et donc, une vraiment belle idée, c'est l'idée qui reste parce que on fait tel ou tel test et on réalise que finalement, elle tient la route. Voilà, donc ça, c'est une vraiment belle idée.
Parce que les mathématiciens parlent souvent d'une belle démonstration. C'est différent quand même. Je poserai la question à Alain Cohn, en fait. Qu'est-ce qu'il entend par une belle démonstration, par exemple, en mathématiques ?
C'est une satisfaction.
Il y a ce principe de simplicité, quand même, de parcimonie, d'élégance, qui est important. Je pense toujours à la question, non pas qu'il est beau cet embryon, mais qui est une façon un peu vulgaire de parler d'art science, mais qu'est-ce qui est beau dans une idée ?
Oui, mais moi, peut-être qu'il y a beaucoup de belles idées et beaucoup de faits qui contredisent la belle idée. Donc, en anglais, on a une expression « beautiful ideas, ugly facts
». Ça, oui, effectivement.
Et je l'applique souvent, en fait. Donc, je pense que oui, il y a beaucoup de belles idées, mais passer vraiment à la démonstration de quelque chose, c'est très difficile. Comme tu disais, on n'arrive jamais à la vérité, mais on la cherche toujours. Et une belle idée, c'est une qui nous donne la meilleure opportunité d'aller vers la vérité.
Elle peut être fausse et belle.
Ah oui, comme je disais, les belles idées peuvent être très séductrices et finalement être fausses. Et donc, il faut les jeter.
J'aurais une autre question par rapport à la contrainte faite à l'imagination. C'est est-ce que on a une part, tu parlais tout à l'heure des instruments d'analyse, des masses données massives. On a une invasion très forte aujourd'hui des techniques d'imagerie, pas toujours quantitatives, mais souvent illustratives plus que quantitatives, avec derrière des contraintes souvent d'utiliser ces techniques à seule fin de publication, par exemple. Mmh. C'est-à-dire qu'il sera très difficile aujourd'hui de publier dans un très grand journal sans avoir mobilisé ce qui est contemporain dans les méthodes d'analyse. Est-ce que ça ne peut pas constituer d'une façon un frein à l'imagination?
Oui, absolument. Je pense qu'on est dans une phase de big data, que ce soit imagerie ou génomique, qui éblouit des personnes, des scientifiques, et qui fait qu'ils ne pensent pas forcément, ils ne réfléchissent plus. C'est terrible à dire, mais je le vois... tous les jours, en fait, qu'il y a des gens qui tombent devant une série de données, que ce soit des données d'images ou des données bioinformatiques, où on a des séquences de, ou des épigénomes, on appelle ça, de tel ou tel type cellulaire. On voit des publications avec des masses de données, mais finalement, il n'y a pas d'idée et il n'y a même pas de vraie découverte. C'est une sorte de catalogue, mais nous, cette génération des scientifiques et les journaux qui publient ces papiers sont éblouis par la grandeur, enfin la taille. Et je vois qu'effectivement, souvent, les idées qui étaient émises il y a 30, 40, 50 ans sont réémises, mais sans que ceux qui les avaient fait à l'époque soient même reconnus ou cités. Et c'est très bizarre parce que finalement, pour avoir une idée et tester une hypothèse, on a maintenant les outils et on est dans une phase, je pense que ça va passer, on est dans une phase où on est tellement impressionné par nous-mêmes et notre capacité de générer ces gros jeux de données qu'on oublie parfois à réfléchir à quelle était la question de départ et où on peut amener la question avec les données requises. Donc je pense que c'est là où peut-être il faut qu'on passe un petit peu à du machine learning et l'intelligence artificielle pour faire un peu sens de ces données. Mais pour faire sens, il faut déjà avoir des questions bien définies. Et je pense que là, et c'est là où il faut l'imagination, et c'est là où peut-être il manque un peu de temps et de recul pour utiliser notre imagination avec toutes ces données.
Et est-ce que ça relève de une sorte de fantasme, en fait, que l'accumulation de données va automatiquement délivrer, faire surgir une théorie ou oui. une compréhension. C'est-à-dire que c'est pas ce qui est arrivé à Darwin, clairement.
Non, exactement, c'est ce que j'allais dire. Darwin, il est revenu avec une masse de données, mais il les a pas juste mis dans sa cave en espérant qu'un jour, quelque chose allait venir taper à sa porte pour lui dire, ben voilà, ça marche comme ça. Il a passé sa vie à analyser et réfléchir et réanalyser et regarder. Et malheureusement, un laboratoire peut aujourd'hui produire des données en une semaine qui peuvent durer toute une vie pour les comprendre. Et en plus, c'est coûteux. Donc, je trouve que oui, il faut peut-être une prise de conscience qu'on devrait prendre un peu plus de temps avec un peu moins de données pour arriver à vraiment poser les bonnes questions et arriver à des réponses. Mais malheureusement, comme je disais, les journaux et aussi les systèmes de financement de la recherche sont dans cette phase de, je dirais, d'éblouissement des big data.
Ce qui veut dire que il faudrait avoir une théorie au départ, ou du moins oui. du théorique. Bah, une théorie, c'est un petit peu du théorique au départ pour pouvoir comprendre oui. même les... Mais si on a du théorique qui permet de voir dans les données ce qui est intéressant, est-ce qu'à ce moment-là, l'analyse globale est nécessaire?
Non, c'est vrai. Mais nous, par exemple, sur le sujet sur lequel je travaille, on est obligé de faire des big data parce qu'on essaie de comprendre un chromosome entier. Donc, on peut pas facilement juste étudier ce chromosome et pas le reste du génome, ou pas le reste de la cellule, si c'est l'imagerie. Mais néanmoins, on a toujours nos questions de départ. On veut comprendre un processus avec plusieurs sous-questions. Et donc, ça nous ramène toujours un peu à la base. On a ces big data. Nous, on a quelques questions précises qu'on pose et on essaie d'exploiter les données pour voir si on a les réponses. Et on les publie. Et l'idée, c'est qu'après, d'autres personnes peuvent utiliser ces données pour poser d'autres questions, parce que c'est des données qui peuvent être exploitées autrement. Et là, on n'est pas vraiment encore là. On commence et bientôt, il y aura des chercheurs qui n'ont pas besoin de voir un laboratoire. Ils peuvent s'installer dans leur maison au fond de je ne sais pas où et juste analyser des données. Malheureusement, ça ne sera pas moi parce que je ne suis pas une bioinformaticienne ou une grande analyse d'images. Mais je pense qu'effectivement, on va arriver.
Tu peux encore apprendre.
Ah, oui, c'est ça.
Pas terminé. Le cerveau reste plastique assez longtemps.
Oui, ça dépend lequel.
Je me suis souvent posé la question de savoir si en mettant toutes les données que Darwin avait collectées pendant toute sa vie, au fond, et si en les mettant, en trouvant des algorithmes qui permettraient de traiter toutes ces données de façon informatique, est-ce qu'on sortirait la théorie de l'évolution, en tout cas les mécanismes qu'il a proposés pour l'évolution? Oui. Ou est-ce qu'il y a quand même la part de Darwin là-dedans?
Ouais, je pense que c'est sûr qu'il y avait la part de Darwin, parce que tous ces mécanismes d'analyse de données, il faut quand même des hypothèses, pas que au départ, mais tout au long. Et Darwin, c'était ça le côté brillant qu'il avait. Il avait même réussi à s'isoler un peu du fracas d'autres chercheurs scientifiques pour pouvoir vraiment se poser les questions tout au long et arriver avec des hypothèses. Donc les 6 versions de l'origine, c'était quand même 6 origines qu'il avait repensées avec des nouvelles idées. Donc je pense que oui, je pense les machines ne pourraient pas remplacer Darwin, pas encore.
Mais quand on est arrivé à la théorie synthétique de l'évolution, qui était très fondée sur des analyses mathématiques en fait, de génétique des populations. C'était à la fois un progrès, mais en même temps, c'était un obstacle, un obstacle au développement de la théorie de l'évolution.
C'est ça. Et ça crée des dogmes, voilà, qui finalement ferment les portes. Alors que je dirais que Darwin avait vraiment laissé ouvert les portes. Ouais.
Donc, je suis content de voir que nous arrivons à la question du sujet, et on ne peut pas, qui tourne quand même autour de cette question. Parce qu'on aimerait bien, en fait, de ne pas avoir besoin de sujet de la science. Ce serait bien que ce puisse être totalement objectif, cette affaire. Et en fait, c'est mieux que ce ne soit pas totalement objectif, qu'il y ait un tout petit peu de vivant. Quand on pense à ce que c'est qu'un cerveau, on se demande comment ça peut fonctionner, un truc pareil. Mais...
Et les moments de Eureka, je pense que pour le moment, il n'y a que le cerveau humain qui peut continuer à les avoir.
Ah oui, que le cerveau humain, oui. Non, je ne fais aucune confiance aux autres singes, puisque nous sommes des singes,
aux autres
singes.
Ou aux machines.
Ou aux machines pour mener cette affaire. Encore qu'avec les machines, on peut se poser des questions. La création musicale. Ça va être quelque chose d'intéressant à regarder à travers peut-être les machines. C'est pour ça que nous avons invité Franck Madlener, qui est le directeur de l'IRCAM, pour qu'il puisse... je lui poserai sûrement des questions sur cette... est-ce que la création, c'est celle d'un sujet? Est-ce qu'elle peut venir, la création d'une machine, par exemple? Il y a quelque chose d'amusant à aller chercher là. Mais puisqu'on parlait du sujet, j'ai envie de revenir un tout petit peu à la langue... parce que tu as quand même une expérience très particulière sur le plan linguistique, qui est que tu vas raconter toi-même. Mais je me demande dans quelle mesure ça n'a pas contribué. Bien sûr que ça a contribué à créer la personne que j'ai en face de moi. En quoi ça a contribué à faire de toi une scientifique pas comme les autres, d'une certaine façon?
C'est toujours difficile de savoir à quel point notre passé, quelle partie de notre passé a fait qu'on est devenu scientifique ou autre chose. Mais effectivement, c'était très particulier d'avoir appris une langue maternelle. Donc jusqu'à 6 ans, je ne parlais que en grec, alors que j'étais née ou élevée en Angleterre. Ma mère était grecque et donc je parlais cette langue en arrivant à l'école britannique, sans un mot d'anglais. Mon père était obligé d'apprendre l'anglais pour pouvoir communiquer avec moi. Lui, il était anglais, ma mère grecque. Et c'est une langue que j'ai jamais appris à écrire.
Ton père a appris le grec pour communiquer avec toi.
Oui, oui. Et pardon, oui, j'ai. Oui. Et en fait, c'était juste une langue parlée. Et donc, toute la première partie de ma vie, là où apparemment le cerveau fait des très grands pas pour se mettre en place, était en grec. Et j'étais obligée d'apprendre l'anglais à partir de 6 ans. Et de manière, c'était un peu formel parce que c'était à l'école. Et en plus, j'étais dans une école privée pour filles. C'était très britannique. Et j'avais un accent grec terrible, alors j'étais un peu ostracisée. Enfin, c'était très particulier comme enfance. Mais je pense qu'effectivement, ça m'a donné un peu la force d'essayer de comprendre, de communiquer. J'étais obligée de me débrouiller. Je comprenais rien au début, alors que j'avais des leçons formelles à suivre. Et très vite, j'ai appris qu'il fallait utiliser tous les moyens du bord pour communiquer. Et je pense qu'en science, ça ne peut que aider d'essayer d'utiliser différentes parties du cerveau pour aborder une question ou transmettre des idées à des personnes. Et mon arrivée en France, beaucoup plus tard, j'avais 24, 25 ans, je parlais pas français, j'avais appris un petit peu à l'école, mais là aussi, j'étais plongée dans un nouveau univers. Et je pense que ma capacité de jongler entre ces trois langues est très importante, non seulement pour la manière que je gère ma vie professionnelle et personnelle, mais aussi... je dirais ma manière d'aborder les cultures. Je suis ouverte à tout. Je ne pense jamais que quelque chose est figé d'une manière ou une autre. Et je n'avais pas réalisé ça jusqu'à récemment et en France. Mais je pense que ça, c'est peut-être ma force européenne. Je me sens vraiment comme une Européenne qui peut... regarder ou vivre même les cultures si différentes qu'on trouve en Europe, mais sans trop de mal. Et j'ai réalisé que ça, c'est peut-être assez, pas unique, mais assez exceptionnel.
Et d'ailleurs, tu vas devenir directrice bientôt du laboratoire européen de biologie moléculaire, l'IMBL, où tu pourras peut-être t'essayer à l'allemand. Chacun a pu voir avec quelle maestria tu manipules aujourd'hui le français.
Ouais. Je pense que le cerveau commence à
Ce qui m'a intéressé, c'est l'idée que quand on ne comprend pas vraiment, l'imagination peut boucher les trous.
Exactement.
Je pense que dans la connaissance scientifique, l'imagination aussi est un magnifique bouche-trou. Merci Edith d'être venue discuter avec moi aujourd'hui.
Et
je rappelle que tu es titulaire de la chaire d'épigénétique et mémoire cellulaire au Collège de France.
Imagination, par Alain Prochian. Prise de son, Dali Yaha. Réalisation, Christine Robert. Assistée de Delphine Derbier, stagiaire.